Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril. Cube.
Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avais hâte de vous parler d'un sujet qui m'interpelle. En fait, je suis surprise, je suis impressionnée par la capacité à inventer des complots, à inventer des fausses informations. Et la dernière trouvaille, finalement, des complotistes, c'est le fait que Brigitte Macron serait un homme. Brigitte Macron, la femme du président français, Emmanuel Macron, serait, selon la complosphère, un homme transgenre. Là, c'est une rumeur qui tournait un petit peu en France, mais là, c'est l'extrême droite américaine qui s'approprie, là, puis évidemment, il y a même Candace Owens, qui est finalement une blogueuse américaine à succès pour les complotistes de droite, qui jure que elle a un scoop important. Brigitte Macron serait un homme. Son vrai nom serait Jean-Michel. Elle aurait même des photos. Elle se rappellerait Jean-Michel Trogneux. C'est assez particulier. Il y a vraiment du monde qui croit que Brigitte Macron est un homme. J'ai même vu des photos passer sur Twitter. Là, ils prennent des photos d'elle puis de sa silhouette. Puis ils disent « Regardez bien, regardez ses jambes. Regardez ses jambes, c'est des jambes d'homme. Regardez son dos, c'est un dos d'homme. Regardez sa face, c'est une face d'homme. » Est-ce qu'il y a quelque chose de plus débile? Franchement, débile. Que ces rumeurs, là. Y a-tu vraiment du monde qui croit à ça? Puis, avoir le nombre de messages que ça sort, que ça fait sortir, notamment aux États-Unis, mais pas uniquement aux États-Unis, à travers le monde, il y a vraiment du monde qui croit à ces sottises-là. Mais où on en est rendu, là? On est rendu au niveau des caniveaux. Franchement, là, Brigitte Macron a un homme. Pour vrai, là. Honnêtement, réveillez-vous. Réveillez-vous de ce qu'on... D'ici là, bienvenue à Cube, bienvenue à votre nouvel épisode.
Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore.
Luc Lavoie.
Écoute, j'ai tellement ri.
Yasmine Abdel-Fadel.
C'est une pièce d'anthologie.
La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel.
Luc, y crois-tu, toi, que Brigitte Macron est une femme?
Jean-Michel.
Jean-Michel, a.k.a. also known as Jean-Michel Trogneux.
Ah, boy. Et ce pauvre Macron, il vit avec ce type de rumeur depuis qu'il est président.
Ah,
L'autre rumeur, c'était que son garde du corps se trouvait être plus que son garde du corps. Tu sais, celui qui a été... qui a tabassé quelqu'un. Alors, ça se promenait, puis... Tu sais, il cache son jeu, il veut pas faire son coming out. Là, on est rendu avec sa femme.
Ben, Macron se faisait insulter en se faisant dire qu'il sortait avec sa mère.
Oui, c'est ça.
Maintenant, il sort avec son père.
Yasmine, tu te surpasses. Premièrement, ce que tu viens de dire s'appuie sur des concepts dépassé. Il n'y a plus de père et de mère.
Non.
Il y a le parent 1
et le parent 2. Géniteur 1.
Voilà, voilà.
Et peut-être que des fois, Brigitte s'appelle Jean-Michel. Et des fois, Jean-Michel s'identifie comme Brigitte. Mais que ce soit Jean-Michel ou Brigitte, ils aiment Manu.
Je te le dis, tu te surpasses aujourd'hui. Allô, mon Jean-Michel, comment ça va aujourd'hui?
Aujourd'hui, je suis Brigitte. Mais tout ça, tu m'as pas dit si tu y croyais.
Ben... Écoute, je me suis pas vraiment penché sur la question.
T'as pas besoin de te pencher, là. Crois-les sur parole.
Bonjour, Yasmine.
Allô, Luc. Heureusement que c'était pas le sujet, hein.
Ben, aujourd'hui, on voulait parler des repas.
Ben oui.
De Mme Olivier, extraordinaire personne à la tête de l'Office de consultation publique de Montréal.
Ben oui.
Alors, ce qu'on dit, c'est que, c'est dans le Journal de Montréal, c'est que par accès à l'information, ils ont obtenu des documents et certains étaient caviardés. J'ai dit, ça y est, elle mange du caviar. C'est ça la nouvelle.
C'est même pas.
Un document caviardé, c'est un document qui est fait
avec du caviar.
Avec du caviar. Alors, voilà. Alors, elle niaisait pas avec la POC, comme on dit chez nous, n'est-ce pas? Alors, elle, quand elle allait dans un restaurant, d'abord, elle choisissait le haut de gamme. Elle était pas...
Dans le temps qu'elle y
aille. C'est ça, mais écoute, de toute façon, elle a droit à ça. Là. C'est une femme qui réfléchit
c'est
et qui est à la tête de la consultation, de tout ce que tu dois. Alors, elle allait dans des restaurants... Damas. As-tu été au Damas?
C'est bon.
C'est délicieux.
C'est extraordinaire.
Pourquoi elle s'en priverait?
Mais là...
C'est pas comme
si c'était son argent.
C'est comme si on était une gang de cheap.
Ben,
voilà, cette
ça.
Femme-là
Voyons.
Était en train de transformer notre vie pour le mieux grâce à ses consultations. Ouais. Et là, c'est pour ça qu'ils sont allés au Mozambique. Hein? Tu te souviens de la phrase que ça m'avait inspirée?
Oui.
Hein? T'aimes les bessiques, va au Mozambique. Ils ont fait une mission, comme tu sais, à l'étranger, 23 jours. Et ils sont allés au Mozambique.
Ça prend du temps pour arriver là.
Beaucoup d'efforts. D'ailleurs, le repas qu'elle avait offert à... Comment s'appelait-il, là, ce charmant...
Guy Grenier,
beau garçon.
Ton meilleur ami.
Beau garçon, hein?
Ouais.
Et qui aimait bien les huîtres. Alors, ils ont profité de leur voyage de 23 jours.
Mais elle l'a remboursé, là.
Elle l'a remboursé avec intérêt. Elle a pris le chiffre, puis elle a ajouté 80 $ par-dessus.
Oh, le capitalisme.
Puis là, elle y a repensé un seul instant. Là. Puis là, elle s'est dit, non, ça n'a pas de bon sens ce que j'ai fait là. Je poursuis Québécois. Alors, c'est clair que Québécois est intimidé. Je regarde ses médias ce matin. C'est clair qu'ils ont de la difficulté avec tout ça. Écoute, cette dame, 17 793 $ de fonds publics dans des restaurants en 2016 et 2019.
Ben oui!
Pourquoi pas?
Mais Luc, qui va résister à l'assiette de grillades de viande pour deux personnes, incluant un carré d'agneau de l'Alberta puis un filet mignon à 170$? Voyons donc, Luc Lavoie.
Mais pourquoi s'en priverait?
Ben pourquoi?
Donnez-moi une bonne raison pour qu'elle s'en prive.
C'est un humain, après tout.
Mais là, je veux dire, tout ça va se régler devant les tribunaux, parce que, madame, écoute, j'ai entendu dire qu'au plus haut niveau de Québécois, ça tremble. Oh non, elle va... Oh, on est fait.
Surtout que t'es bien plugué à Québec. C'est vrai que le texte de ce matin, il sent...
C'est tellement drôle. En fait, oui, c'est drôle parce qu'au fond, ça fait... C'est pas des... Tu sais, ça, on fait dans la scandalette, là. Dans la scandalette, mais dans ce qui a le plus de bas de gamme. Tout le monde peut se comparer à ça, là, tu comprends? Hey.
Mais moi, je savais pas que la gauche, là... Ça allait chez Canos, puis ça allait chez Damas.
Pour espionner la droite. C'est pour ça qu'ils
y allaient. Tu pensais que c'était des sanctuaires de capitalistes sauvages?
Ben c'est ça, ils y allaient pour ça. Parce qu'ils faisaient rapport à la présidente du comité central,
Madame Blanc. Ils devaient se fondre dans
Blanc.
La masse.
Voilà, ils se fondaient dans la masse.
Commandé.
Tu regardes Guy Grenier, qui était
c'était en mission.
D'une élégance absolument extraordinaire.
T'aimais son polo. Toi, t'es jaloux de son polo,
sais. Oui. Ça, puis ses running shoes, là, c'est ses baskets blanches. Là, c'était vraiment... Écoute... Quand on consultait ici, on niaisait pas ces gens-là, là, qui se donnaient corps et âme pour leur mission.
Ben, bien sûr.
Ces gens-là, là, comprends-tu, ils se sont trouvés plus de job. Ça nous montre à quel point nous sommes une bande d'écœurants.
Mais on est écœurants.
On l'est, c'est épouvantable. D'ailleurs, c'est grâce à eux autres, l'Office de consultation publique de Montréal, qu'une des plus grandes consultations publiques a été menée, celle qui portait sur la fermeture du chemin Camillien-Houd, n'est-ce pas?
Remembrance?
Les résultats de la consultation menée par ces gens extraordinaires, c'est que les gens de Montréal, ils voulaient pas qu'on ferme
là. C'est pas grave.
Ils ont dit, ben là, L'OCPM s'est prononcé là-dessus, mais si on s'en balance, nous autres, on le fait pareil.
Ben oui.
Alors, bon, alors quand même, tu
comprends. Débrouillez-vous.
Débrouillez-vous, nous autres, comprends-tu, c'est décidé d'avance, on aime les bicycles, et puis le chemin qu'Émilien Wood, c'est fini, ça.
Mais là, Dominique Olivier qui poursuit Québécois puis qui dit que ça a nuit à sa carrière politique. Pour vrai, là.
Sa carrière allait bien. Pourtant, elle était présidente du conseil exécutif.
Ben comité oui, du comité exécutif de la ville de Montréal.
Je pense qu'en fait, ils vont changer ça bientôt. Ça va s'appeler comité central.
Ben, écoute... le politburo.
Le politburo.
Elle dit, Mme Olivier, l'article le dit, avance que le dévoilement au grand jour de son utilisation des fonds publics, la contrainte à démissionner de son poste de présidente du comité exécutif et, entre guillemets, a compromis de façon durable sa carrière politique.
Ben là, c'est clair que, en fait, ce qu'elle voulait, c'était devenir première ministre du Canada pour pas dire, en fait.
Non, gouverneur général?
Non, elle veut un poste d'élu parce qu'elle veut ultimement être nommée secrétaire générale des Nations Unies. Peux-tu imaginer, t'es secrétaire générale des Nations Unies, là, tu peux aller chez Damas tous les jours. Non, il serait à New York. Je suis sûr qu'il y a des équivalents de Damas à New York.
Ben, New York.
New York,
t'sais.
Who cares?
De la petite bière. C'est du petit champagne.
Alors, tu sais, c'est mieux à Paris. Les huîtres sont
les
bonnes.
Huîtres à Paris.
Les huîtres à Paris, ça goûte tellement
ça
meilleur.
Ça goûte la mer. Le sel, là. Tu sais, avec un petit verre de vin blanc, là.
Arrête, je vais boire.
Mais pour le moment, elle va boire bien de la piquette.
Ben là, elle a dû se priver d'un repas parce qu'elle a remboursé.
Et depuis qu'elle a remboursé, ouais, elle mange du ballonné.
Avec de... Puis du Paris pâté.
Puis du Paris pâté. Luc Lavoie, on va manger des huîtres ensemble.
J'ai hâte.
Merci. Salut. Beaucoup.
Yasmine Abdel Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Ottawa s'est lancé dans le logement. Ben oui. Puis là, j'imagine que là, vous êtes en train de vous poser des questions. Hein? Le logement, c'était pas une affaire provinciale? Oui. Mais on s'en fout à Ottawa que ce soit une question provinciale, que ce soit des champs de compétences provinciales. Nous, on va le faire, la Charte nationale des droits des locataires. Nous, on va le faire, le dévoilement des loyers obligatoires. C'est quoi que ça va avoir comme répercussion réelle sur les propriétaires qui, eux, veulent continuer à louer, mais là, commencent à trouver de plus en plus d'obstacles. On en parle avec Éric Sanssouci, président du conseil d'administration de la Corpic. Bonjour, M. Sanssouci.
Bonjour, merci, content d'être là.
Dites-nous, comment vous voyez ça, vous? Est-ce que vous le saviez que le fédéral allait se plonger dans les champs de compétences provinciales?
Ben, on s'est élevé super positif, on était enthousiastes. Finalement, peut-être de bonnes nouvelles pour relancer l'offre, relancer la construction, nous aider à prendre soin du parc immobilier locatif. Puis finalement, on est arrivé avec, une ingérence là, dans une juridiction provinciale, mais encore plus des éléments qui sont, pour la plupart, au Québec, déjà en place.
Comme quoi?
Ben, par exemple, si on pense à la Charte des droits des locataires, n'est-ce pas le tribunal administratif du logement et toute sa réglementation qui est déjà en place et qui prévoit les droits des propriétaires et des locataires?
Mais monsieur Sanssouci, vous vous enfargez dans des détails. Parlons des locataires et de leurs droits, tu sais, le code civil, une petite bibitte, là, pas besoin de ça. Comment il pense le gouvernement fédéral appliquer ces nouvelles annonces d'hier?
Ça, j'ai hâte qu'il nous le raconte un peu, parce que on a du mal à comprendre comment est-ce que c'est applicable tout simplement. Et si ce l'était, pourquoi refaire ce qu'on a déjà? L'historique des loyers au Québec, on a la clause G, la section G du bail qui prévoit l'inscription du dernier loyer payé dans la dernière année. Et ça vient tout juste d'être renforcé par la loi 31 qui oblige, sous peine d'amende, pénalité, dommages, préjudices, les propriétaires à l'écrire. Donc, c'est déjà en place. Si on pense au bail standard que le gouvernement canadien veut implanter, je comprends qu'au Manitoba, c'est peut-être une bonne idée. Je la connais pas très bien, la réglementation manitobaine. Mais au Québec, on a un bail très rigoureux qui est déjà en place. La protection contre les évictions, au Québec, on vient juste par la loi 31 de tout réviser ça. Donc, pour nous, c'est du surplace, puis on les accusera pas là d'électoralisme là puis de démarche politique parce que peut-être qu'ailleurs au Canada ça peut être très utile et bien accueilli.
Bon, mais ça Québec, reste des compétences provinciales même ailleurs au Canada. D'ailleurs moi j'étais bien surprise de voir la ministre du logement de la Colombie-Britannique saluer l'annonce de Justin Trudeau. Est-ce qu'on est un peu trop frileux quant à nos compétences en matière de logement, monsieur Sanssouci?
Ben, écoutez, juste par efficacité là, administrative, je pense que c'est une bonne idée de séparer les dossiers. Puis le logement, c'est clairement une juridiction provinciale. Nos taxes font un certain chemin. Alors, dépenser en double, je pense pas que c'est une bonne idée. Mais encore plus que ça, comme je vous dis, c'est déjà en place ici. Là, est-ce qu'on va refaire l'histoire dans laquelle tu sais on a déjà joué pour arriver au même point?
En même temps, il y a des critiques légitimes chez certains propriétaires, notamment des grands groupes. Là, si on parle pas de monsieur, madame qui s'achète un duplex ou un triplex qui habite au premier étage puis qui loue les autres logements, là, on parle des grands groupes qui détiennent plus de 30% des logements, par exemple à Montréal. N'y a-t-il pas lieu de serrer un petit peu la vis parce qu'il y a comme un Far West chez ces grandes corporations là?
Si j'étais d'accord, ça c'est une autre question, encore faudrait-il que ce soit faisable. Et tu sais, c'est ça, la réglementation canadienne n'a pas juridiction ici au Québec et c'est des outils. Et ce qu'ils avancent, c'est déjà en place. Alors, c'est là où est-ce qu'il y a un non-lieu selon moi là, quand on analyse l'annonce d'hier. Sinon que, tu sais, on a trouvé que c'était très intéressant là, l'idée de constituer une cote de crédit en tenant compte des loyers payés pour
un locataire. Ça, c'est de la compétence fédérale, pas de problème pour ça, là.
Exact. Donc, tu sais, à ce point-là, c'est parfait. 15 millions qui ont été annoncés pour les groupes de locataires, sachant que le tribunal administratif du logement est débordé, n'arrive pas à répondre aux questions. Donc, si ça peut leur donner des ressources pour bien informer les locataires, la Corpic voit ça d'un œil positif. On aurait aimé ça avoir le même montant. Peut-être la prochaine fois.
Ça risque d'être plus difficile. Disons que le NPD ne va pas être très heureux de savoir que son conjoint, les libéraux, donne de l'argent aux propriétaires, aux méchants propriétaires qui louent trop cher aux locataires. Ça paraît mal, là. Ça fait pas gagner de vote, ça, monsieur Sanssouci. Parlons de Montréal. Montréal aussi a annoncé de l'aide pour les locataires. Ça, c'est plus dans leurs compétences, mais est-ce que c'est efficace?
Vous pensez notamment là au programme là, de propriétaires là, oui, responsables ou certifiés. Oui, en fait, on a vu l'annonce. Ça fait quelques années qu'on suit là, le développement de ce projet-là. La Ville de Montréal a mis beaucoup d'eau dans son vin par rapport au projet initial. Donc, nous, on accueille là positivement là cette approche-là là, qui est plus réaliste, qui est plus raisonnable. Mais encore, faut-il, puis selon nous, c'est qu'ils ont réfléchi à ça, faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand on met en place une réglementation, sachant que les propriétaires, 75% des immeubles ont été construits avant les années 80. Depuis 40 ans, suite à l'introduction de la régie du logement, on est dans un cadre réglementaire où est-ce que la rénovation n'est pas récompensée pour un propriétaire, étant donné les faibles augmentations de loyer qu'on peut aller chercher suivant une rénovation majeure. L'argent qui est investi en rénovation ne se retrouve pas dans la valeur du bâtiment, c'est automatique. Donc, tout le monde est frileux à rénover à grands frais là, depuis 40 ans. Et là, si on ajoute cette année, ben, en fait, depuis 2-3 ans, les taux d'intérêt, on a...
Ah oui.
Asphyxie financière en plus. Donc, parfait, je viens de trouver un immeuble où j'aurais besoin de faire un mur de briques. Avec quel argent? Est-ce que je l'ai? Est-ce que ça ne va pas faire en sorte que, comme on voit souvent, on a un propriétaire qui avait une détention à long terme, qui va abandonner, qui va mettre en vente son immeuble, les revenus sont pas assez élevés et les rénovations sont très coûteuses.
Et les taxes?
Et les taxes. Et qui achète? C'est ça qu'on doit se poser comme question. En ce moment, celui qui peut mettre 40% de mise de fonds pour acheter un immeuble, c'est le rénovicteur. C'est celui qui va investir beaucoup d'argent à court terme, qui va vider l'immeuble et qui va ensuite relouer les logements à grand prix pour rentabiliser l'investissement. Alors, si on veut pas ça, il faut trouver le juste équilibre pour que le propriétaire ait de l'oxygène pour passer à travers cette période-là. Il a besoin d'aide.
Le propriétaire, on dit qu'il a besoin d'aide et moi, je peux facilement comprendre que c'est pas facile parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut taper sur le propriétaire comme si le propriétaire était méchant, mais après tout, là, il pourrait décider juste de retirer son logement une fois que le locataire quitte, puis ne plus l'offrir. Là, il n'y a rien qui oblige un propriétaire à offrir son logement en location. Et on le sait, il y en a beaucoup aussi qui font du Airbnb, là. Puis des fois, c'est beaucoup moins un paquet de troubles de faire du Airbnb que de louer à quelqu'un qui risque de pas prendre soin des appartements. La question que je me pose, cependant, là, il y a le fardeau de la preuve pour les évictions qui a été renversée suite au projet de loi qui a été adopté par le gouvernement de la CAQ. Qu'est-ce que ça a comme répercussions réelles sur les propriétaires? N'est-ce pas une bonne chose pour essayer de trier là, les réno-victeurs des vrais propriétaires bienveillants et respectueux de leurs locataires?
Tu sais, la CORPIC cherche le juste équilibre. Alors, si on veut être juste, quand on recherche le juste équilibre, ben il faut faire la part des choses, puis on peut pas aller tout à gauche ou tout à droite, il faut être au centre. Alors, de protéger les locataires d'évictions qui seraient malhonnêtes et frauduleuses, la CORPIC voit ça positivement. C'est plus de trouble pour un propriétaire aujourd'hui de récupérer son logement ou encore de procéder à une éviction parce que des travaux majeurs sont nécessaires.
Des vrais travaux, là.
Avec des vrais travaux. Alors, ça amène tout le monde à faire ses devoirs correctement. Et ça, ça va.
Éric Sanssouci, président du conseil d'administration de la CORPIC, merci beaucoup.
Toujours un plaisir.
Au revoir.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Yasmine, te dire le nombre d'émojis de bonhommes qui pleurent de rire
avec Luc,
avec ton segment de Luc, j'en ai reçu là à la pelletée sur la messagerie texte. Je pense que vous en avez fait rire une couple.
Mais ça, nous, on a eu du fun, fait que je pense que le monde aussi a eu du fun à écouter ça.
En tout cas, nous aussi, juste de l'autre côté des studios, là, toute la gang de Cube, ça riait. À tous les jeudis, d'habitude, on jase finance avec Jean-Sébastien Jutras, qui est planificateur financier. Puis aujourd'hui, on va justement revenir sur le nouveau programme familial qui a été annoncé hier par Simon Jolin-Barrette. Comment tu vois ça, toi, cette façon de gérer un peu là, tous ceux qui sont à côté? On dit ça hein, au Québec, on est à côté.
On est à côté. Moi, je suis un peu vieux jeu. Hein? Moi, je suis mariée, puis comme, tu sais, je crois à l'institution qu'est le mariage, mais je pense qu'il est important de protéger les enfants nés dans une union de fait. Puis, c'est à ça que vient répondre le projet de loi. Je trouve ça intéressant. Ça fait longtemps que tout le monde demande ça, là, que demande une refonte de cette manière-là. Je trouve que c'est très courageux de la part de Simon Jolin-Barrette que de faire cette petite révolution-là. Là, t'sais, on est comme en train de remettre à jour notre droit de la famille. Ça faisait longtemps que c'était nécessaire. Mais aujourd'hui, les couples ne sont plus intéressés par le mariage. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Il me semble que c'est le fun, un party.
Je sais, j'aimerais tellement ça. Toi, tu avais fait un gros party?
Ben, gros,
combien?
Non.
C'était un mariage de combien?
OK. Non.
Mais passé 100, je pense qu'on dit que c'est quand même considéré comme un gros mariage.
Moi, pour moi, c'est petit, 125.
Ah oui, t'as refusé du monde. T'as dit non, cette tente-là.
Non. Ben, tu sais, l'avantage d'habiter de l'autre bord de l'Atlantique, là, c'est qu'il y a comme une barrière naturelle qui s'appelle l'océan Atlantique.
Ça fait un ménage assez vite, là. Ceux qui sont prêts à débourser.
Filtre naturellement.
Pour le billet d'avion pour venir outre-mer, j'avoue que ça se fait.
Ça, c'est efficace, ça fait économiser de l'argent. Mais c'est le fun. Moi, j'adore les mariages.
Ah ben oui, à chaque été, là, juste comme le feeling d'être invité à un mariage, il y a quelque chose de le fun.
Mais là, tu magasines-tu des bagues avec ton chum? Tu l'emmènes pas dans des magasins?
Ah, peut-être que c'est ça que je fais de pas correct. Je l'amène pas devant les bijouteries pour le faire parce que je lui demande à tous les jours. Puis, je dis, veux-tu marier? Toutes les fois, c'est non.
Utilise l'intelligence artificielle. Tu sais, quand tu parles de bateau Disney, là, tu en parles dans ton salon, deux jours plus tard, ça pop dans ta publicité. Là.
Ben oui, on est sous écoute.
On est sous écoute. Mais si tu veux que le marketing travaille pour toi, tu devrais en parler côté du téléphone de ton chum.
Mariage.
Maria, veux-tu m'épouser?
Petit message, c'est ça. Bon, ben, je prends des notes. Venant d'une femme mariée, je ne peux qu'apprendre.
Ça fait 2015, ça fait 9 ans de mariage, pareil.
Hein, tu vas fêter tes 10 ans l'année prochaine? Ouais. Ça, c'est des noces de...
Je sais pas.
Moi non plus.
Pour moi, c'est toutes des noces de diamant, j'y ai dit, des jours 1. Non, achète-moi pas de coton, là.
J'avoue que c'est comme décevant.
Pas fait pour moi, là.
Ça fait comme pointe.
Non. toutes des nièces du diamant.
Donc, on va revenir là-dessus sur ce nouveau programme-là qui a été annoncé hier avec Jean-Sébastien Jutras. On va vous décortiquer tout ça, évidemment. Et en fin d'épisode, on revient sur la décision de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, qui a dit que la situation budgétaire de Québec ne permet pas de rémunérer les stages dans les cégeps et les universités. Donc, on va en parler avec Madoua Nika Gadet, qui est députée libérale de Bourassa-Sauvé, mais qui est aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et de travail. Donc, restez avec nous. Ça s'en vient d'ici la fin de l'épisode de Yasmine. Diverses façons, évidemment, de rester en direct. Cube.ca, l'application de Cube ou encore la chaîne télé qui est débrouillée jusqu'au 11 avril prochain. Il en reste plus long. Il reste 2 semaines pile pour venir voir comment ça se passe dans nos studios, venir voir les animateurs, la complicité aussi qu'ils ont avec, avec leurs invités. Donc, c'est l'occasion de venir voir comment ça se passe sur la chaîne de Cube. Et dès 15h, c'est l'épisode de Sophie Durocher et sûrement que vous avez entendu parler de cette nouvelle-là aujourd'hui. Paul Saint-Pierre Plamondon, hier soir, a relayé sur X, sur les réseaux sociaux, des images qui montrent les joueurs des Voltigeurs porter uniquement un chandail, le chandail qui était écrit uniquement en anglais. Et là, Québec a réagi. Ça a forcé le gouvernement Legault à réagir. Il demande une enquête de l'Office québécois de la langue française. On va en parler avec Jean-François Barry. On le sait, son garçon joue justement dans la LHJMQ. Et Jean-François Barry a parlé ce matin au directeur des communications. Donc, on va avoir son avis. Mais tout de suite après, très intéressant, évidemment, on va recevoir le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, pour en parler. Donc, entrevue à ne pas manquer. Et justement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le Parti québécois, aujourd'hui, a déposé une motion à l'Assemblée nationale. Ils veulent qu'il y ait un plan d'action d'ici juin concernant le temps d'écran. Ils demandent au gouvernement Legault de prendre les mesures nécessaires, juste avant que la prochaine rentrée scolaire se fasse. On le sait, il y a plusieurs pays en ce moment qui sont inquiets avec le temps d'écran chez les jeunes. Les études s'accumulent et ils prouvent justement que les écrans ont un effet nocif sur le comportement des enfants, même sur leur développement. Il y a une corrélation directe qui a été démontrée entre l'exposition aux écrans et les performances scolaires au primaire. Les profs qui remarquent de plus en plus des troubles de l'attention, des élèves qui sont de plus en plus agressifs aussi. Donc, cette motion-là a été déposée aujourd'hui, donc à voir le résultat du vote. Mais il y a des commissions scolaires ontariennes qui, eux, ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes et ils ont intenté une poursuite contre Meta, contre Facebook, Instagram. On les accuse d'avoir conçu par négligence des produits qui entraînent une utilisation compulsive et qui ont modifié le comportement des enfants. Donc, ils réclament en fait des indemnités de plus de 4 milliards de dollars pour remédier à ces coûts que ça engendre pour le système d'éducation. Ils demandent en fait de revoir la conception des produits pour la sécurité des élèves. On le sait, la France sont vraiment en avance là-dessus. Ils ont instauré toutes sortes de mesures pour aider les jeunes vis-à-vis le temps d'écran. Donc, c'est à voir justement aujourd'hui avec la motion qui sera déposée par le Parti québécois. Ce sera donc à surveiller. Si vous voulez réagir à tous nos sujets d'actualité, texto 1-877-827-2346, le 187 Cube Radio.
Yasmine Abdel Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Une 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel Fadel. Bon après-midi, Yasmine.
Bon après-midi, Julie.
Alors, le premier ministre Justin Trudeau qui continue de dévoiler tranquillement différentes mesures qu'il va présenter dans le budget le 16 avril prochain. Hier, c'était le logement. Aujourd'hui, ce sont les garderies. Hier, c'était non par Québec. Aujourd'hui, c'est encore non par Québec. D'ailleurs, c'est dénoncé de toutes parts par le premier ministre, par les différents ministres du cabinet de la CAQ. Pourquoi M. Trudeau fait ça si il fait des annonces qui sont du champ de compétences des provinces, finalement?
Bien, il y a deux éléments que je comprends pas, honnêtement, Julie. Le premier, c'est que normalement, le budget, il y a un privilège parlementaire pour que les parlementaires prennent connaissance du budget en premier. Il ne devrait pas y avoir de, finalement, d'annonce liée au budget avant sa présentation officielle à la Chambre des communes. Alors, j'ai l'impression que Justin Trudeau et les libéraux s'exposent à un outrage au Parlement à la Chambre des communes, étant donné qu'ils sont en train de dévoiler petit à petit des éléments essentiels du budget. Donc, drôle de stratégie, mais j'imagine que c'est calculé puis qu'ils sont prêts à vivre avec ce risque-là.
C'est peut-être parce qu'on va annoncer un immense déficit le 16 avril prochain et que toutes les mesures que lui croit positives, ça passerait sous le radar?
Bien, j'imagine, mais un énorme déficit. On est comme habitué avec Justin Trudeau. Il n'y a personne qui pense qu'il va nous annoncer qu'il va équilibrer le budget le 16 avril prochain. Mais là, maintenant, est-ce qu'il va y avoir des gros débats pour dire qu'il ne, chez les conservateurs, chez le Bloc, chez les, ben, peut-être pas le NPD. Le NPD doit être heureux qu'on sorte le qu'on s'implique dans les champs de compétences des provinces puis qu'on sorte le chéquier, là. Mais au moins, les conservateurs puis les bloquistes, normalement, devraient s'insurger de cet outrage au Parlement. Maintenant que c'est dit, les champs de compétences, j'ai l'impression que Justin Trudeau, là, ce qui l'intéresse, c'est le provincial, c'est pas le fédéral. J'ai l'impression qu'il n'y a pas autant de passion pour les champs de compétences fédérales que pour les champs de compétences provinciales. Le problème, c'est que ça relève pas de lui. Comment il va appliquer ça, le bail national pour tout le monde? Mm-hmm. Comment il va appliquer ça, le changement, les changements au Code civil québécois? Le fédéral peut pas changer notre Code civil où les règles sont inscrites. La charte des locataires, c'est quoi ces règles-là nationales? Nous, on est déjà ici encadrés. On a un tribunal administratif du logement. On a un code civil. On a une nouvelle loi, une toute nouvelle loi qui vient d'être adoptée, où les débats ont été faits à l'Assemblée nationale, où il y a eu des compromis qui ont été faits. Et même si on n'est pas content, il y a des élections pour ça. On a élu un gouvernement pour qu'il s'occupe aussi du logement, que ça nous plaise ou pas. Je pense que Justin Trudeau, il joue dans les craques, tu sais. Là où le gouvernement provincial ne fait pas, n'agit pas, lui, il arrive et il dit, de toute manière, vous n'étiez pas dans ce champ-là, fait que moi, je vais venir offrir des services. Il l'a fait pour la médecine dentaire, hein, pour les soins dentaires, parce qu'il sait que ça serait gênant pour un gouvernement provincial de dire, moi, je ne veux pas que mes citoyens aient accès à des services dentaires gratuits. On ne peut pas déchirer vraiment ses chemises, c'est politiquement payant. Il l'a fait, il ne s'est pas trop fait brasser, mais sur le logement, ça, là, ça ne passera pas, puis je pense que ça va potentiellement finir devant les tribunaux.
Bien, dans le fond, sa logique, Yasmine, est-ce que c'est de dire que les Canadiens sont mal desservis actuellement par les différentes provinces canadiennes ou c'est simplement pour tenter de remonter dans les sondages?
Bien, le logement a été un sujet qui a beaucoup aidé Pierre Poilievre. Hein. Il a parlé l'année dernière, là, il parlait continuellement de logement, puis on se rappelle son exemple du jeune homme de 33 ans qui habite encore dans le sous-sol chez ses parents parce qu'il peut pas se payer un logement. Là. Et là, Justin Trudeau, il veut dire que lui aussi, il a agi sur le logement. Le problème, c'est qu'il agit sur des leviers qui n'appartiennent pas à son champ de compétences. Puis lui, contrairement à Pierre Poilievre, il est premier ministre. Il fait partie de l'exécutif. Pierre Poilievre est à l'opposition. Il peut bien promettre ce qu'il veut, puis bien promettre des actions dans les champs de compétences. C'est pas réel, c'est pas concret, c'est pas tangible. Alors que quand on est premier ministre, la moindre des choses, c'est de respecter le champ des compétences des provinces.
Bon, concernant justement les provinces, hier, il y a des journalistes qui ont posé la question au premier ministre François Legault concernant cette fameuse promesse là, qu'il avait faite en 2018 de réduire la taille de l'État qu'il n'a pas tenue. On va écouter ensemble sa réponse.
M. Legault, les oppositions vous accusent ce matin de ne pas avoir respecté votre engagement de réduire la taille de l'État.
D'abord, je souhaite une bonne journée. Le Canadien a gagné contre l'avalanche de Colorado. C'est quand même pas rien. C'est plus...
Qu'est-ce que tu as pensé de la réponse du premier ministre, Yasmine?
Il y a le fond et la forme. Dans la forme, j'ai pas aimé ça, puis ça aide pas le premier ministre non plus, dans le sens où le premier ministre, on dirait que, une promesse brisée, arrêtez de me gosser avec ça. Le plus important, c'est que les Canadiens ont gagné contre les avalanches du Colorado. C'est pas le message que devrait porter le premier ministre. T'sais, il s'agit d'un sujet important. La taille de l'État, c'est quelque chose qui est importante, puis une promesse brisée, ça alimente un cynisme qui n'est que déjà trop présent. Ensuite, dans le fond, le premier ministre ne peut pas continuellement maintenir cette ligne dure où il ne parle pas aux médias et ne répond pas aux questions. Parce que là, normalement, la stratégie était qu'il faisait toujours un point de presse le jeudi pour vider les questions de la semaine puis répondre à toutes les questions des journalistes. Mais par exemple, aujourd'hui, il n'était pas à l'Assemblée nationale. Donc, il n'a pas fait ce point de presse-là. Donc, Il faut faire quoi? Se contenter des sorties du premier ministre en période de questions? Il doit se présenter aux médias, il doit répondre aux questions, et ça, c'était une question importante.
Il a répondu aujourd'hui là, aux questions de différents journalistes, mais évidemment, le contexte était tout autre. Ça ne se faisait pas à l'Assemblée nationale comme tu l'avances. Merci beaucoup, Yasmine. Bon après-midi à toi.
Pour une analyse franche et convaincante, Yasmine Abdel-Fadel.
La réforme de la famille, ça a des implications financières importantes là, et ce qui dit répercussions financières dit un changement dans la planification financière dans un couple, dans une famille. On en parle avec Jean-Sébastien Jutras, notre planificateur financier préféré à Jutras Gestion de patrimoine. Bonjour Jean-Sébastien.
Allô Yasmine.
T'as-tu eu beaucoup d'appels de clients hier qui disaient « Ben là, moi, je suis en congé, je suis en union de fait, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je devrais faire? Comment je me protège? »
Ben, le téléphone n'est pas encore sonné à ce niveau-là, mais ça va venir, hein, parce que ça va soit en inquiéter ou ça va rendre la curiosité de certaines personnes là-dessus. C'est des changements qui sont vraiment importants, là, Yasmine. C'est parce que, puis pourquoi que, puis je lève mon chapeau au ministre Simon Jolin Barrette. En fait, ça prend quand même beaucoup de courage pour faire ça. Puis dans le passé, ben, il y avait le PQ à l'époque de Pauline Marois qui avait parlé de mettre ça en place. Je pense même qu'il y avait eu un projet de loi, puis les libéraux voulaient même pas embarquer là-dedans parce qu'ils trouvaient que c'était justement, ça prenait du courage pour le faire. Je lève mon chapeau au ministre pour ça. Parce que c'est. Puis pourquoi on prend le temps de le faire? Ben, au Québec, on est les champions du monde en union de fait. Donc, il y a plus de 40% des couples qui sont en union de fait au Québec. Je tenais un comparable, là, la moyenne canadienne, c'est 23. Puis aux États-Unis, on parle d'à peu près 12% des couples qui sont en union de fait. Donc, au Québec, c'est vraiment. On est les champions. Donc, si on est les champions, ça veut dire que, ben, faut que le système soit différent. Et ben là-dessus, c'est ce qu'on a réussi à faire. Ben, en fait, du moins, c'est un projet de loi qui va entrer en vigueur en juin 2025. Il va peut-être avoir d'autres modifications d'ici là, mais de ce qu'on a vu à date, puis Yasmine, c'est rare, mais à l'Assemblée nationale, tout le monde semblait d'accord sur ça. Ceux qui sont plus de gauche, quand même, trouvaient que c'était intéressant, mais que ça pourrait aller encore plus loin.
Ah oui.
Mais somme toute, on a quelque chose d'assez intéressant.
Mais là, on commence à avoir différents régimes là, tu sais, de protection, le mariage, l'union de fait. Là, la question, on dit, on va protéger la résidence principale, les voitures, mais les REER et les fonds de pension, c'est exclu du patrimoine de l'unité parentale. Pour un planificateur financier, c'est quoi les mécanismes que vous devez créer de manière à bien conseiller les différentes familles compte tenu de ces nouvelles dispositions-là?
Bien, ce qui est important, c'est que les gens comprennent bien. Il y a même des gens, Yasmine, qui pensaient qu'être en union de fils, c'était pareil comme le mariage après un certain nombre de temps.
Ah oui.
Pas du tout ça. Là, avec ça, on s'approche, mais on est quand même encore loin. Là, parce que comme tu l'as dit, lorsqu'on va se séparer, il faut qu'il y ait un enfant là, dans l'union. Parce que là, ce qu'on cherche à faire, c'est protéger l'enfant, non pas nécessairement protéger le conjoint. Là, fait qu'on veut protéger l'enfant. Alors, lors d'une séparation, bien, là, on va partager ce qu'on a acquis depuis la naissance de l'enfant, la maison, les meubles, voiture. Puis quand on dit maison, c'est la maison principale. Dans le mariage, Yasmine, on dit les maisons pour la famille, qui fait que ça rentrerait les chalets, ça rentrerait...
Donc, ou les là, actifs immobiliers.
Exact. Là, on met simplement la maison principale. Donc, on limite quand même de beaucoup tout ça. Moi, où que je vais amener un point quand même, puis ça, on a toujours pu le faire, juste que les gens ne le faisaient pas. On peut toujours faire un contrat de vie commune qui permet de se protéger davantage. Puis moi, ce que j'amène beaucoup, c'est quand on a un couple où que les deux revenus sont vraiment pas égal, là, qu'il y a vraiment un écart entre les deux, ou que le conjoint ou la conjointe bien, s'occupe des enfants, s'occupe des biens de l'autre conjoint ou conjointe, puis finalement, au fil des années, il y a un écart impossible à rattraper qui se fait entre les deux. Bien, dans ce cas-ci, Yasmine, tu vas comprendre que cette fille-là ou ce gars-là bien, viennent de perdre beaucoup d'argent parce qu'il s'est occupé. Donc, s'il n'y a jamais une séparation, bien, là, chacun garde ses affaires. Là, on a la maison, on a les meubles, mais reste que si moi j'ai accumulé 500 000 $ dans mes placements, ça va rester à moi. Donc, on pourrait quand même, via un contrat de vie commune, de venir protéger le conjoint ou la conjointe, mais au moins avec un système comme ça, on a une protection de base, mais on pourrait toujours en rajouter. Mais souvent, Yasmine, tu vas comprendre que les gens les plus fortunés ne veulent pas vraiment en rajouter plus.
Non, ça c'est... Puis habituellement, même quand ils se marient, il y a ce qu'on appelle un contrat de mariage qui Est-ce que c'est légal, ça? D'ailleurs, je vais te poser ça, cette question-là. C'est-tu légal au Québec, un peu comme aux États-Unis, quand on le voit dans les films, là, on fait un prenup, là, un contrat pré-mariage qui puisse décrire qu'est-ce qui arrive une fois le divorce, ou est-ce que nos règles de patrimoine familial au Québec avec notre code civil sont strictes puis on peut pas déroger à ça?
Le patrimoine familial, on peut pas, on pourrait le refuser au moment du divorce, mais tu vas comprendre qu'au moment du divorce, il y a personne qui veut refuser ces trucs. Ça juste partie. Mais comme tu as dit, le contrat de mariage, c'est les trucs hors patrimoine familial. Donc, mais le patrimoine familial, là, pour un mariage, là, on prend tous les comptes de retraite, on prend la maison, les véhicules, puis là, on le sépare en deux. Et là, on pourrait exclure le reste. Avec les autres placements que j'aurais, mon entreprise, si je suis un propriétaire d'entreprise, on pourrait l'exclure. Mais je pourrais pas bypasser ça. C'est les règles. Je peux le bypasser la journée que le divorce arrive. Mais c'est rare que c'est fait. Contrairement à cette nouvelle règle-là, par contre, Yasmine, pour les couples union libre, ils auraient le droit de refuser cette règle-là. Donc, je pourrais aller chez le notaire, refuser mon droit pour cette nouvelle règle du régime d'union parentale-là. On aurait le droit de le refuser, ce qui ne serait pas le cas pour un couple marié.
C'est comme un droit de opting out qui existe. Qu'en est-il d'un couple qui, parce que ça, tout ça ne rentrerait en vigueur là, si le projet de loi est adopté qu'en 2025. Et il faut avoir eu un enfant après 2025. Mais là, aujourd'hui, c'est un couple qui a un enfant qui est déjà là. Tu dis, tu sais quoi, moi, je veux aller me protéger avec les nouvelles dispositions. Est-ce qu'il pourrait?
Pourrait le faire absolument. Par contre, il va falloir qu'il le fasse devant un notaire pour qu'il y ait un acte légal là-dessus qui soit sorti. Donc, par exemple, en juillet 2025, je pourrais aller voir un notaire qui me rendrait admissible à ce régime, j'oublie toujours le nom, là, le régime.
L'union parentale, patrimoine. C'est ça.
Donc, on pourrait se rendre admissible de cette façon-là. Sinon, s'ils font rien, ils vont rester dans le système qu'ils sont actuellement, qui protège rien. Puis même aujourd'hui, il y en a des gens que ça les allume en disant, finalement, c'est vrai qu'on n'avait rien. Ils peuvent aller voir un notaire aujourd'hui puis se créer un propre régime. On peut se créer notre propre régime avec un notaire. Donc, s'il y a des gens aujourd'hui qui voient qu'il y aurait une iniquité entre les deux, ils pourraient le faire. Puis c'est quand même, encore une fois, 40 % des couples qui sont en union de fait. Quand même, 60 % des couples mariés. Je pense que tu es mariée, Yasmine.
Oui.
Donc, quand même. Et puis, tantôt, Yasmine, je vous écoutais, toi, puis Stéphanie. Là, puis Stéphanie, elle a lancé un message clair à son chum qu'elle avait hâte.
J'espère qu'il nous a entendus, hein?
J'espère que ton chum écoute Stéphanie parce que le message était clair.
Le message était très clair. Là. Je pense que s'il le fait pas, c'est qu'il fait semblant de pas l'entendre puis il se forge pour pas l'entendre. Mais nous, on va continuer à le répéter. Là,
puis on lui enverra l'extrait de l'entrevue.
Oui, on va lui envoyer l'extrait de l'entrevue qu'on va sponsoriser également pour s'assurer qu'il puisse l'entendre partout où il tourne. Jean-Sébastien, les règles successorales dans ce nouveau projet de loi vont aussi changer. Là, qui hérite de qui au décès d'un couple de conjointes fées qui ne sont pas mariées, ça risque d'être intéressant, ça aussi.
Game changer, ça aussi, en fait. Là, parce qu'on pouvait hériter notre conjoint en union de fées, il fallait que ça se fasse par testament. Or, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas beaucoup de testaments. Il y a moins de 50 % des gens qui ont un testament. Puis les jeunes, c'est encore moins là, au niveau du testament, parce que souvent, les gens vont faire leur testament quand ils achètent leur première maison. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la première maison, elle arrive beaucoup plus tard. Fait que parfois,
si
on a des jeunes enfants dans des appartements ou dans des condos loués. Fait que le testament arrive beaucoup plus tard. Là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir quand même protéger ces gens-là. Donc, avant, le couple en union de fait n'était pas du tout reconnu. Et là, ici, on va pouvoir le reconnaître. Donc, si jamais la personne décède sans testament, il y a quand même le tiers de ce que la personne a qui va s'en aller au conjoint survivant, ce qui est quand même pas rien. À l'époque, c'était rien du tout.
Jean-Sébastien Jutras, merci beaucoup pour nous donner un petit peu c'est quoi que ça va avoir l'air pour les couples dorénavant. Mais planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine, à très bientôt.
Bye, Yasmine.
Bye-bye.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel.
Imaginez que dans le cadre de votre formation, notamment universitaire, vous ayez besoin de faire des stages, puis un stage là, à temps plein. Fait que toute la semaine, là, vous travaillez dans le domaine dans lequel vous avez étudié. mais vous ne recevez pas un rond. Donc, vous faites toute la tâche, mais sans aucune rétribution. Il y a plusieurs étudiants qui manifestent et qui sont en grève, en fait, des milliers d'étudiants qui sont en grève cette semaine, parce qu'ils demandent à ce que les stages dans les cégeps et les universités puissent être payés. Et la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, a dit non. Alors que les trois partis d'opposition ont dit appuyer les étudiants qui sont en grève. On en parle avec Madouanika Kadé, députée libérale de Bourassa-Sauvé, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et de travail. Bonjour, Madame Kadé, ça va bien?
Bonjour, Madame Abdel-Fadel, ça va très bien, merci. Merci de l'invitation.
Pourquoi aujourd'hui vous soutenez les étudiants dans leur demande d'avoir des stages rémunérés alors que quand le gouvernement libéral était au pouvoir, c'était une fin de non-recevoir?
Bien, écoutez, bien, je pense que vous avez très bien expliqué la problématique dans laquelle les étudiants sont aujourd'hui. Vous avez bien mis la table. Donc, en ce moment, donc on a des étudiants qui sont obligés de faire un stage hein, parce qu'il y a pour une bonne partie des programmes de formation dont il est question, bien, ils ont l'obligation de compléter un stage pour pouvoir obtenir leur diplôme. Ils travaillent à temps plein pendant ce temps-là. Et dans le contexte d'inflation dans lequel on est aujourd'hui, bien, ils reçoivent absolument aucune rétribution pour leur travail qu'ils font. Puis on s'entend, on parle pas ici de stage d'observation, hein. On parle donc de stage où les jeunes posent donc des gestes normaux là, de l'emploi. Ils posent des actes relevant de l'exercice normal d'un emploi. Lorsque, par exemple, il y a quelqu'un donc qui a besoin d'être remplacé, donc le stagiaire peut poser exactement les mêmes gestes. Il y a comme un non-sens ici que ces stages-là qui sont dans le secteur public, donc des stages de l'État, dans des programmes de formation ou qui aide l'État à remplir ses missions essentielles, que ces jeunes-là ne reçoivent absolument aucune compensation financière.
La différence, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à avant, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre et on le voit que le privé, là, il y en a beaucoup qui recherchent des stagiaires parce que ça vient combler un besoin et ils les payent. Puis je pense aux avocats notamment, là, les stages des avocats, c'est payé. À moins que je me trompe.
Mais tout à fait. Public... Moi, je suis avocate, puis j'ai jamais fait aucun stage non rémunéré. Là. Dès mon premier stage coopératif, quand j'étais à l'Université de Sherbrooke, chacun de ces stages-là était rémunéré, je vous confirme.
Comment se fait-il que le public, lui, il va chercher cette main-d'œuvre-là qui vient réellement aider, tu sais, qu'on on parle d'infirmières, par exemple, ouais. Ou toute autre profession, puis qu'il ne les paye pas?
Bien, c'est exactement la question qu'on se pose. D'autant plus, puis si vous l'avez nommé dans vos exemples, on parle d'infirmières, d'enseignantes, de travailleuses sociales, puis je fais exprès de féminiser les titres de ces corps d'emploi-là parce que la grande majorité donc des personnes donc qui étudient dans ces programmes-là, bien, ce sont des femmes. Donc, ce sont des métiers qui sont à prédominance féminine. Et quand on fait la comparaison bien, avec le secteur privé, bien, en génie, en informatique, bien, en droit, bien, il y en a pas. Là. Il y en a pratiquement pas donc de stages qui sont non rémunérés dans ces secteurs-là. Dans le privé, on comprend très bien donc la pénurie de main-d'œuvre dans laquelle on est. Puis, ça fait bien longtemps donc qu'on n'a pas cet enjeu-là donc de la rémunération des stages dans le privé. Mais dans le secteur public, donc l'État est l'employeur de ces personnes-là. On prend la décision de ne pas rémunérer ces stagiaires qui remplissent donc ces mêmes tâches-là. Donc, ils font exactement donc les mêmes tâches donc que d'autres personnes qui commencent dans le métier, dans le secteur, mais qui ne sont pas rémunérées pour le faire. Là. On parle, par exemple, dans l'enseignement. Moi, j'ai vu des exemples donc de jeunes qui font des remplacements dans le milieu d'éducation, qui sont payés pour faire donc des remplacements, mais quand arrive le moment de faire leur dernier stage d'études dans leur dernière année, ils ne sont pas payés. Alors qu'ils ont fait exactement les mêmes tâches avant en remplacement. Là. C'est comme étudiant, parce qu'évidemment, dans la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit dans le secteur aujourd'hui, bien, on a des ouvertures comme ça pour des adultes par classe. Donc, donc ces jeunes qui sont aux études font des remplacements dans le secteur. Il y a un gros non-sens dans le secteur.
On peut aussi comprendre la partie gouvernementale pour dire bien, il y a la situation financière, elle est critique, elle est inquiétante, et c'est pas le moment d'ouvrir de nouveaux postes de dépenses. On a déjà 11 milliards à aller effacer, là. On va pas ouvrir de nouveaux postes de dépenses. Mais qu'en est-il de tout le volet attraction, rétention des employés, puis la formation, requalification? Est-ce qu'on devrait commencer par les emplois les plus recherchés, par exemple dans les soins de santé, à commencer par financer les stages, puis laisser les autres à plus tard, quand la situation financière permettra d'élargir le programme?
Bien, d'abord, la question de la situation financière me fait toujours rire parce que chaque fois qu'on pose des questions au gouvernement sur leurs décisions, bien, ils nous disent, ben voilà, on ne peut pas nous demander donc de faire donc des bons investissements dans la situation financière dans laquelle on est puis nous reprocher le déficit. Je m'excuse, mais la situation dans laquelle on est aujourd'hui, bien, c'est la faute du gouvernement. Le dernier gouvernement libéral, il a laissé 7 milliards de surplus à la CAQ en arrivant. Donc, dans les dernières années, on est passé d'un surplus de 7 milliards à un déficit de 11 milliards. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'équation avec des mauvaises décisions. On peut penser au chèque de 500 $ qui ont été envoyés à tout le monde. On peut, bien évidemment, là, on sait que c'est pas un énorme montant, là, mais ça frappe donc l'exemple donc des Kings de Los Angeles qu'on a fait venir ici à grands frais, donc à 7 millions de $ pour deux matchs préparatoires. Ce sont juste des exemples de décisions caquistes qui ont été prises dans les dernières années qui font en sorte que le gouvernement, maintenant, il se retrouve qu'il n'y a plus la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour faire donc des choix qui seraient utiles pour donc en fait pour remplir donc répondre à la pénurie de main d'œuvre, pour pallier la pénurie de main d'œuvre qu'on vit dans ces métiers-là. Puis oui, pour répondre à votre question, ben la bonne chose à faire, ben ce serait de nous assurer d'offrir des bonnes conditions de travail. Donc dès l'entrée donc sur le marché du travail, donc pendant le parcours de formation avec le stage, à ces jeunes qui viennent combler la pénurie de main d'œuvre dans des secteurs qui sont névralgiques, puis on le voit.
Parlons des bourses perspectives, si vous me le permettez. On dit, puis on a vu un article à Radio-Canada qui dit que on n'arrive pas nécessairement à atteindre les objectifs qui avaient été établis lorsqu'on a mis en place ces bourses perspectives-là. Pensez-vous qu'il serait judicieux et pertinent de transférer les fonds associés aux bourses perspectives à de la rétribution des stages des étudiants?
Mais moi, ce que j'ai demandé à la ministre Derry, c'est d'abord donc, de faire un exercice de reddition de compte. Parce que dès le départ, au sein de l'opération main-d'œuvre, on nous a présenté à grands coups là, ces bourses perspectives en nous disant que ça allait vraiment faire la différence dans certains de ces domaines de formation-là. Puis aujourd'hui, sans surprise, parce que moi, je l'ai vu sur le terrain, donc en parlant avec des directions de cégep et d'université, puis c'est ce qu'on a vu dans l'article cette semaine, que eux-mêmes ne voient pas les effets de ces bourses perspectives-là. Donc, moi, dès le départ, ben, je me dis, OK, quels étaient les critères qui étaient mis en place pour en fait, avant de prendre la décision donc de créer ces programmes de bourses-là, programmes mur à mur, comme on le voit souvent à la CAQ, et comment est-ce qu'on peut avoir un exercice de reddition de compte qui nous montre où ce qu'on en est aujourd'hui pour rectifier le tir. C'est pas la première fois que dans l'opération main-d'œuvre, que je suis aussi critique en emploi, qu'on voit donc ce type de, en fait, ce manque de résultats-là. C'était la même chose avec le PARAF, le pratique, donc d'autres programmes de formation qui sont faits sous la même forme, mur à mur, et qui au final donnent soit pas de résultats ou peu de résultats, ou qu'on le sait juste pas parce que le gouvernement, ben, il est pas en train de, il y a pas de reddition de compte, donc ils savent pas qu'est-ce qui se passe avec ces programmes-là.
Prochaine étape, vous allez passer bientôt en étude de crédit. Vous allez avoir l'occasion de questionner Pascal Derry. Est-ce que, pas juste Pascal Derry, parce que là, vous êtes rendu aussi critique en matière d'éducation, mais Bernard Drinville, puis la ministre de l'Emploi également. Quel est, d'après vous, là, selon vos dossiers, l'enjeu de l'année? Là? S'il y avait un enjeu à régler, puis à être, qui devienne l'obsession de ces ministres-là, ça devrait être lequel?
Et ben, je pense que c'est l'enjeu sur lequel je les questionne très souvent en chambre, c'est la question de la pénurie de main-d'œuvre. On vient d'en parler dans le secteur public, mais c'est aussi le cas dans le secteur privé. On a un ralentissement économique, même on peut dire qu'on est en récession en ce moment. Donc c'est sûr que dans le secteur privé, la crise est plus aussi aiguë qu'elle l'était l'année passée. Mais on a quand même un enjeu de vieillissement de la population, un enjeu démographique qui est structurel. Et on voit pas, non seulement qu'on voit pas donc les signaux d'alarme du côté du gouvernement sur l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre, de voir à quel point, sur le plan économique, ça doit être une priorité. Mais en plus de ça, donc les programmes qui ont été lancés avec l'opération main-d'œuvre, soit ne fonctionnent pas, soit n'atteignent pas les résultats qui s'étaient, les objectifs qui s'étaient donnés au départ en 2021. Donc, doivent s'attendre à des questions de ma part sur ce sujet-là.
Madouanika Kadé, députée libérale de Bourassa-Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et de travail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça me fait vraiment plaisir, Mme Abdel-Fadel.
Au revoir.
Au revoir.
Sur ces belles paroles, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio.